VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour, le président burundais a officiellement reporté l'élection présidentielle après des semaines de protestations suscitées par sa décision de briguer un troisième mandat. Nicolas Pino.
Le décret a été publié ce mercredi et appelle aux urnes tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi. L'élection des sénateurs au scrutin indirect aura lieu le 24 juillet selon le texte. Ce nouveau calendrier suit ainsi les recommandations de Dar es Salaam. Les chefs d'État de la sous-région avaient alors recommandé un report de 6 semaines des élections au Burundi en proie à une contestation contre un possible troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'opposition et la société civile burundaise dénoncent toujours une rupture des accords d'Arusha et de la Constitution. Faux, répondent les partisans du président, qui devrait, sans réel adversaire, être réélu aisément le 15 juillet prochain. Reste à savoir dans quelles conditions ce scrutin va se dérouler, puisque des membres de la commission électorale ont démissionné. L'Union européenne a suspendu sa mission d'observation, tout comme l'Église catholique burundaise qui a retiré tous ses membres des CENI locales. Autre défi financier, l'État burundais a lancé une souscription nationale car les partenaires internationaux comme la Belgique ont gelé le financement du processus électoral en signe de protestation. Ce mercredi est encore resté calme dans Bujumbura, les quartiers contestataires étant toujours quadrillés par la police.
Un gendarme malien a été tué dans une attaque attribuée à des djihadistes à Misseni, dans le sud du pays, près des frontières ivoiriennes et burkinabées, une première dans cette région. Le gendarme a été identifié à l'AFP comme étant l'adjudant Bachaga Konem, par un ministre sous le couvert de l'anonymat. Selon un élu local, une trentaine de djihadistes ont pris un temps le contrôle du camp militaire et tué un gendarme. D'importants mouvements de population sont signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Roger Bion.
Selon Radio Okapi, plus de 10 000 personnes ont fui leur domicile à la suite des affrontements entre les forces armées congolaises, les FRDC, et la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRP. Ces violences sont survenues dans la collectivité de Walendo-Bindi, dans le district de l'Ituri en province orientale. Les déplacés, en majorité des femmes et des enfants, auraient trouvé refuge dans les localités de Sorodo et Bukiringi, à environ 100 km de leur milieu d'origine, où ils vivent dans des familles d'accueil. La majorité de ces déplacés passeraient la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri.
Selon l'agence France Presse, la société britannique Soco aurait acheté un officier congolais impliqué dans une série de violences contre des opposants à ses projets d'exploration pétrolière dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo. L'AFP cite à cet effet un communiqué de l'ONG Global Witness. L'organisation non gouvernementale britannique a publié sur son site internet la reproduction de 4 chèques émis par Soco en mai 2014 au bénéfice d'un major des forces armées de la RDC posté au sein de la réserve naturelle de l'Est du pays pour un total de 15 600 dollars. Global Witness a également publié ce qu'elle présente comme un reçu signé de l'officier pour ces 4 chèques ainsi qu'un autre daté du 30 mai 2014 par lequel le major accuse réception d'un montant de 26 650 dollars supplémentaires. Ces documents montreraient, ajoute Global Witness, qu'en dépit de ces démentis répétés, Soko aurait payé des dizaines de milliers de dollars à un officier de l'armée accusé d'avoir soudoyé et intimidé ceux qui s'opposent à l'exploration pétrolière dans le parc des Virunga. Au Rwanda, une éventuelle modification de la constitution pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 fait couler beaucoup d'encre. Mais contrairement aux autres pays africains, au Rwanda, peu de voix s'élèvent contre cette éventualité. Pour l'instant, les partisans du pouvoir qui saluent le succès économique du pays auraient même organisé une pétition pour exiger une révision constitutionnelle. Depuis Kigali, on écoute notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Ici, on parle de près de 4 millions de signatures recueillies en quelques semaines. Le but, signifier clairement aux parlementaires qu'il faut modifier la constitution afin de permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Ce dernier au pouvoir depuis plus de 20 ans achève en 2017 son second mandat à la tête du pays. Wilson Ali Kayitare est un cadre de banque à Kigali Convaincu des succès économiques du président Paul Kagame, lui et quelques amis décident de lancer fin mars une pétition demandant aux citoyens d'écrire pour demander aux parlementaires de modifier la constitution pour permettre à Kagame de se présenter en 2017. Il affirme que son groupe a recueilli plus de 250 000 signatures en 3 semaines. Selon les partisans du pouvoir, à ce jour, le Parlement a reçu près de 4 millions de signatures. Et pour Wilson Kayitare, ce processus qui est enclenché au Rwanda n'a rien à voir avec les modifications constitutionnelles tant décriées dans les autres pays africains. À l'allure où vont les choses, tout laisse croire qu'on s'achemine sûrement vers un changement constitutionnel au Rwanda. Bagasi Kura, Kigali pour VOA Africa.
Tout le monde n'est cependant pas pour la modification de la constitution au Rwanda. L'opposition fait valoir que la pétition est une simple manœuvre du parti au pouvoir. 4 blessés mercredi près du célèbre temple de Karnak à Louxor, dans le sud de l'Égypte, dans une attaque qui a échoué selon la police. 2 des assaillants ont été tués. L'attaque n'aurait pas encore été revendiquée.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président Barack Obama devrait annoncer cette semaine l'envoi de jusqu'à 500 conseillers militaires supplémentaires et la création d'une nouvelle base en Irak afin de former les forces gouvernementales et leurs alliés et les aider à combattre les djihadistes de l'État islamique. Ces renforts vont s'ajouter aux 3000 conseillers et formateurs américains déjà déployés dans le pays. La nouvelle base militaire devrait être installée près de la ville d'Abania, dans la province d'Anbar, à l'ouest de Bagdad. À l'occasion de sa dernière visite au Proche-Orient, le chef d'état-major interarmes, le général Martin Dempsey, a voulu rassurer Israël quant à la poursuite de l'aide militaire américaine, notamment face à l'Iran. Washington aidera l'État hébreu à améliorer ses défenses aériennes et son programme de missiles, a dit le général Dempsey, qui va quitter son poste à Washington en octobre. L'ancien président de la Chambre des représentants américaine, Dennis Hastert, a plaidé non coupable d'avoir menti à la Sûreté fédérale dans une affaire d'abus sexuels et de versement d'argent pour réduire la victime au silence. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Dennis Hastert, qui est connu dans les cercles politiques de Washington pour une carrière exempte de scandale, est accusé d'avoir retiré de son compte jusqu'à 1 700 000 dollars entre 2010 et 2014 pour s'acheter le silence d'une personne qu'il peut avoir agressée sexuellement alors qu'il était entraîneur de lutte dans un lycée. Puis, face au questionnement des autorités, il aurait menti. Bien qu'il n'y ait rien d'illégal au retrait de fortes sommes d'argent d'un compte privé, les enquêteurs fédéraux interrogent d'habitude le propriétaire du compte pour éviter tout risque de blanchiment d'argent par le crime organisé.
Le premier ministre grec Alexis Tsipras espérait rencontrer à Bruxelles la chancelière allemande Angela Merkel et le président François Hollande en marge du sommet entre l'Union européenne et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Il ne reste que 3 semaines à la Grèce pour réunir les fonds nécessaires pour ne pas faire défaut sur sa dette à la fin de juin, quand elle pourrait devoir rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Europol a annoncé mercredi l'arrestation d'une 50aine de personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe de cybercriminels actifs dans plusieurs pays d'Europe. Ils auraient dérobé des millions d'euros sur des comptes bancaires européens. Les présumés coupables agissaient notamment en Belgique, Espagne, Italie, Pologne et au Royaume-Uni. Des perquisitions ont eu lieu dans 58 lieux différents. Des ordinateurs, des téléphones et autres documents ont été saisis. Les suspects, principalement originaires du Nigeria, du Cameroun et d'Espagne, transféraient leurs profits illicites hors de l'Union européenne. Le pape François a donné mercredi son feu vert à la création d'une instance judiciaire chargée de juger les évêques qui seraient accusés d'avoir couvert ou de n'avoir pas empêché des abus sexuels sur des mineurs. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi. Cette instance, dépendant de la Congrégation pour la doctrine de la foi, répond à des demandes répétées des associations de victimes. Le pape a suivi les recommandations de la commission de 17 membres, des religieux et des laïcs.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.